Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 13h, bienvenue dans votre édition française du jeudi 6 janvier 2022. Je suis Marianne Murat et avec Jean-Noël Ducasse, nous sommes très heureux de vous accompagner pendant une heure. Au programme aujourd'hui, les dernières actualités suivies du journal des sports. Et en deuxième partie d'émission, comme chaque jeudi, la chronique économie. On y parlera aujourd'hui du prix des tests antigéniques vendus en Australie. Et en fin d'émission, on prendra le temps de rendre un hommage à Jean-Paul Belmondo qui nous a quittés le 6 septembre dernier. Tout ça, c'est maintenant, c'est pendant une heure. Et pour commencer, votre journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 6 janvier, la flambée de l'épidémie de coronavirus un peu partout dans le monde, record mondial aux États-Unis, record quotidien en France, première en Italie et l'Australie qui annonce de nouvelles mesures. On fera un tour d'horizon dès le début de ce journal. L'exécutif français à l'assaut des non-vaccinés, Emmanuel Macron qui dit vouloir les emmerder jusqu'au bout, je cite, Jean Castex qui les accuse de fracturer la nation et les parlementaires vent debout contre le pass vaccinal à l'étude en ce moment, rien ne va plus en politique. Et en sport, les derniers rebondissements du dossier Novak Djokovic Open d'Australie. Après être arrivé à l'aéroport de Melbourne, le numéro 1 mondial doit finalement quitter le territoire. Pourquoi ? Toutes les explications dans le journal des sports de Jean-Noël Ducasse. Et on commence ce journal par la pression sur les systèmes de santé australiens à cause du Covid-19, bien sûr. Vous l'avez probablement vu dans la rue, ces interminables files d'attente pour se faire tester, ou alors en magasin, les tests antigéniques introuvables puisque pris d'assaut immédiatement après le réassort. Eh bien, sachez que le cabinet national a finalement accepté de multiples modifications pour alléger la pression, le but étant de réduire le nombre de tests PCR réalisés chaque jour. Alors, parmi ces changements, la suppression du test PCR justement pour confirmer un test antigénique positif ou encore la livraison prochaine de tests rapides gratuits. On écoute le Premier ministre Scott Morrison.
We're moving away from PCR tests and we're getting further advice from that from the Chief Medical Officer next week. These point of care tests can also be administered at testing sites themselves. So you will find yourself in the course of the next couple of weeks, they'll be transitioning where you'll be either beginning a rapid antigen test provided at that site, and you'll get your result there and then, within 15 minutes. You won't have to wait for the test results to come back from the lab. This will take the pressure off the pathology labs.
Le Premier ministre qui promet la livraison de 200 millions de tests rapides antigéniques d'ici 2 mois. Alors après, quand on voit les chiffres de contamination en Australie, on se demande bien comment la pression va pouvoir retomber sur les laboratoires de dépistage. L'état le plus impacté est sans surprise aujourd'hui encore le New South Wales. Plus de 111 000 tests y ont été réalisés hier, 34 994 nouveaux cas enregistrés. On écoute le premier, Dominique Perrottet, à propos des tests justement.
There is no dollar figure that we will not put on the table to ensure as we move through this next phase, rapid antigen tests are available to anybody right across the state who needs one.
Dans le Victoria, deuxième état le plus impacté, près de 22 000 nouvelles personnes malades en une journée. Et dans le Queensland, c'est un décès et plus de 10 000 cas recensés, un record absolu pour cet état jusque-là épargné par l'épidémie. Toujours sur le front de l'épidémie de coronavirus, ce sinistre record, celui battu par les États-Unis depuis le tout début, depuis mars 2020, plus d'un million de nouveaux cas en une seule journée. Alors, selon le docteur Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, la hausse du nombre de cas suit une courbe presque verticale. Il prévient également que le pic de contamination n'est pas encore atteint aux États-Unis et c'est surtout chez les jeunes que la situation inquiète. La correspondance à Washington de Guillaume Nodin.
C'est le conseiller conseiller médical en chef du président Biden, le docteur Anthony Fauci, qui le dit lui-même, la courbe du nombre de cas aux États-Unis est pratiquement verticale. Plus d'un million ont été rapportés rien que lundi. Il y a probablement un effet de rattrapage après le week-end du Nouvel An, et il faut donc le prendre avec précaution, mais la moyenne quotidienne sur les 7 derniers jours approche désormais le demi-million. Le variant Omicron représente désormais plus de 90% des nouvelles infections et réinfections. Si le nombre de morts baisse depuis une semaine, les hospitalisations, elles, sont aussi à la hausse, particulièrement chez les jeunes enfants pour lesquels un quadruplement est observé. Les différentes autorités cherchent la meilleure réponse, notamment en multipliant les tests. Plus de 3000 écoles dans le pays ont différé la rentrée de janvier ou repris par des cours à distance. Ce n'est pas le cas de toutes. Le nouveau maire de New York, Eric Adams, a en revanche décidé de laisser les écoles ouvertes. Pour lui, c'est l'endroit où les enfants sont le plus en sécurité, avec notamment l'obligation de porter un masque. Les autorités sanitaires ont par ailleurs lancé le processus pour autoriser les doses de rappel dès l'âge de 12 ans contre 16 ans auparavant. Pour l'administration, la vaccination et la troisième dose restent les meilleures protections contre la progression fulgurante du variant Omicron.
Dans ce contexte, Joe Biden a décidé de doubler la commande du traitement anti-Covid du laboratoire Pfizer. Vous savez, cette pilule que les Américains peuvent avaler dès l'apparition des premiers symptômes. Sarah Rosenblum est chercheuse en santé publique et en sciences politiques à l'Université du Michigan. Pour elle, il y a surtout un grand absent dans les mesures du gouvernement américain. Écoutez.
Cette réponse fédérale, elle insiste sur l'intensification de la vaccination, la diffusion des tests, la mise au point d'un traitement antiviral. Par contre, les dispositifs d'aide sociale qui ont permis à beaucoup d'Américains de subsister tant bien que mal ces deux dernières années, qui ont été mises en place par l'administration Trump comme l'administration Biden, des chèques envoyés aux Américains, l'augmentation des allocations de chômage, la création de programmes de congés maladie payés qui n'existaient pas avant, tous ces dispositifs ont expiré ces dernières semaines et ils n'ont pas été reconduits par l'administration Biden. Ce qui signifie qu'en fait, les Américains ont cette nouvelle année dans une situation de plus grande vulnérabilité socio-économique, alors que la situation sanitaire s'aggrave, et ça c'est un choix délibéré de l'administration Biden qui interroge un petit peu. Je pense que en raison de la difficulté qu'a rencontré l'administration Biden à faire voter un certain nombre de projets de loi ces derniers mois, je pense qu'il s'est dit qu'il allait se heurter un certain nombre d'obstacles politiques, qu'il allait peut-être pas être en mesure d'obtenir le renouvellement de ses programmes, et que la manière la plus simple de prévenir la diffusion de l'épidémie, c'était de mettre l'accent sur la vaccination, sur les tests et sur des mesures individuelles plutôt que des grands dispositifs d'aide sociale qui avaient été privilégiés ces dernières années. Oui.
Au-delà de l'Australie et des États-Unis, les contaminations dues au Covid-19 se multiplient presque partout dans le monde en ce moment. C'est le cas également en France, avec aussi un record pour l'Hexagone, plus de 332 000 nouveaux cas en 24 heures. Alors pour en arriver à ces résultats positifs, les gens vont se faire tester bien sûr, et ces tests ont un coût pour la sécurité sociale, 1 million d'euros pour le seul mois de décembre, selon le quotidien économique français Les Échos, Myriam Berber.
Avec l'arrivée du nouveau variant Omicron, les Français se testent massivement, avec un record au mois de décembre, 1 million de tests PCR ou antigéniques par jour. Sur ces 30 millions de tests en décembre, 28 millions ont été remboursés par la Sécurité sociale. La France est en effet un des pays qui rembourse totalement ces tests, sauf pour les non-vaccinés. Résultat, la note s'annonce très élevée pour le gouvernement. Selon des informations du quotidien Les Échos, la prise en charge à 100% par la Sécurité sociale devrait coûter 1 milliard d'euros pour le seul mois de décembre. Et pourtant, le coût moyen du test a baissé, 36 euros aujourd'hui contre 61 euros auparavant. Pour faire des économies, l'assurance maladie a également diminué les honoraires des libéraux de santé pour chaque dépistage réalisé. Pour le mois de janvier, on prévoit un volume de tests quotidiens supérieur à 1 million. À ce rythme-là, le gouvernement va vite dépenser l'enveloppe de 6 milliards d'euros prévue à cet effet pour l'ensemble de l'année.
On reste en France et on ouvre le volet politique. Il avait pourtant promis de ne plus céder à la tentation des petites phrases. C'est raté. Emmanuel Macron a signé l'une de ses sorties les plus polémiques depuis le début de son quinquennat. C'était mardi, lors d'un échange avec les lecteurs du quotidien français Le Parisien. 2 minutes sur 2h15 d'interview. 2 minutes pendant lesquelles le chef de l'État a déclaré vouloir emmerder, je cite, jusqu'au bout les non-vaccinés. C'est ça la stratégie. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Des propos qui, bien sûr, ont immédiatement soulevé une vague d'indignation dans les rangs de l'opposition et notamment chez les candidats à l'élection présidentielle, Aurélien Devernois.
Inouï, scandaleux, consternant, cynique, cruel, les candidats à l'élection présidentielle ne manquent pas d'adjectifs pour condamner les propos d'Emmanuel Macron, à l'image de Marine Le Pen.
Par les contraintes, ça a été le choix du président, donc maintenant non seulement il les contraint, mais en plus il les insulte. Il est garant de la cohésion nationale. Et il a oublié cela, et en faisant cela, il commet non seulement une faute politique, mais une faute morale.
Un faux pas dans lequel comptent bien s'engouffrer les rivaux du chef de l'État, Valérie Pécresse, candidate de la droite.
Il faudra mettre fin à ce quinquennat du mépris. Je veux y mettre fin. Je suis d'ailleurs la seule à pouvoir en terminer avec un président qui, visiblement, ne supporte plus les Français quand ils ne pensent pas comme lui.
Du côté de la majorité, on fait front. Pas question de se désolidariser de la parole présidentielle, même si certains, comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, ne semblent pas particulièrement convaincus par la forme.
Moi, je comprends assez bien cette idée. Là, il s'est exprimé de façon familière. Je pense que tout le monde a compris ce qu'il voulait entendre. Écoutez, c'est lui qui dira s'il le regrette ou s'il le regrette pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a compris ce qu'il voulait dire.
La polémique risque toutefois de peser sur la loi instaurant le pass vaccinal. Censé entrer en vigueur le 15 janvier, le texte a de nouveau été malmené hier soir à l'Assemblée nationale et il doit encore passer les écueils du Sénat et du Conseil constitutionnel.
Alors après la charge du président français, celle du Premier ministre, à son tour, Jean Castex accuse les 10% de Français non vaccinés de fracturer la nation. Le chef du gouvernement s'est adressé aux parlementaires pour défendre le projet de loi du gouvernement sur le pass vaccinal, Pierre-Olivier.
En début d'après-midi, le chef de file de la droite sénatoriale, Bruno Retailleau, est le premier à ouvrir le feu des commentaires assassins.
Ces mots-là, c'est pas un dérapage de plus, c'est un outrage de trop.
Devant des sénateurs déchaînés, Jean Castex persiste, signe et maintient le cap.
Oui, mesdames et messieurs les sénateurs, nous ne cessons de le dire, nous avons une difficulté avec celles et ceux de nos concitoyens qui ne sont pas vaccinés. Les propos du président de la République s'inscrivent en parfaite cohérence avec ce que nous faisons, c'est-à-dire pousser à la vaccination.
Un peu plus tard, nouveau front pour Jean Castex, cette fois devant les députés, pas franchement plus convaincu par le Premier ministre comme Mathilde Panot, députée insoumise.
Ce n'est pas seulement les non-vaccinés que vous emmerdez. Vous emmerdez le peuple français tout entier. Lorsque vous supprimez des lits à l'hôpital public, vous n'êtes pas, monsieur le Premier ministre, le porte-parole des vaccinés. Et j'ai bien l'intention que dans 95 jours, ce président de la République arrête d'emmerder les Français.
C'est finalement dans le calme que les débats sur le pass vaccinal se poursuivront à l'Assemblée. Opération déminage une fois de plus, assurée par Jean Castex.
Et sachez qu'entre deux suspensions de séance, les députés ont relevé à 16 ans l'obligation de présenter un pass vaccinal pour les activités extra et périscolaires. Alors, c'est dans ce contexte de hausse des cas et de fortes tensions que l'état d'urgence sanitaire a été décrété dans plusieurs territoires d'outre-mer. La mesure était déjà en vigueur depuis le 27 décembre à La Réunion et en Martinique. Elle est étendue désormais à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guyane et la Guadeloupe. Dans ce dernier département, seuls 40% de la population a reçu une première dose de vaccin. Et en Guadeloupe, justement, une manifestation contre l'obligation vaccinale des soignants a dégénéré. Gérard Cotellon, le directeur du CHU et deux de ses adjoints, ont dû être exfiltrés après avoir été pris à partie par des manifestants. Ils témoignent au micro de Radio France Internationale.
Je suis à ma sixième plainte pour menace de mort. Donc après les menaces de mort, c'est le passage à l'acte. Hein. Mon bureau a été caillassé il y a 3 semaines. Bien entendu, il faut porter plainte. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Je veux dire, il ne faut pas s'habituer à ça. Il faut que cet hôpital soit sanctuarisé. Il faut protéger l'hôpital, il faut protéger les personnels. Les médecins sont maltraités, les médecins voient les pneus de leur voiture régulièrement crevés. L'objectif, c'est de créer une situation de chaos. Et donc, moi, je dis, c'est pas normal que sur un territoire de la République, l'hôpital qui est un lieu de paix où on prend en charge des gens qui sont vulnérables, qui sont fragiles, qu'on ne puisse pas faire ça en toute sérénité. Et si nous en sommes là, c'est aussi parce que depuis 30 ans, on a fermé les yeux sur ce genre de choses. Et donc, ce sentiment d'impunité qui réside dans ce CHU, n'a plus lieu d'être. Moi, en tout cas, ce ne sont ni les menaces de mort, ni les intimidations qui me feront renoncer à ma mission. Tant que je serai en Guadeloupe, je ne changerai pas de posture. Je serai toujours sur notre éthique hospitalière qui veut que dans un hôpital, il y a des règles et puis tout doit être fait pour prendre en charge les patients.
Et en bref, l'Italie devient le premier pays à instaurer l'obligation vaccinale pour les personnes de plus de 50 ans. Cette nouvelle mesure concerne donc 28 millions d'Italiens. Toujours en France, le volet judiciaire et avec cette première, la justice autorise une action de groupe contre le laboratoire médical Sanofi dans le dossier de la dépakine. La dépakine, ce médicament contre l'épilepsie qui, lorsqu'il est ingéré par une femme enceinte, peut provoquer chez l'enfant à naître des malformations et des troubles du développement. Des milliers d'enfants ont été touchés en France. Le tribunal judiciaire de Paris a donc reconnu la responsabilité de Sanofi. Explication signée Valérie Cohen.
Le laboratoire Sanofi a commis une faute en manquant à son obligation de vigilance et à son obligation d'information. Tels sont les termes du tribunal. La responsabilité de l'entreprise pharmaceutique est donc établie et c'est une avancée importante pour l'association de familles de victimes qui a initié cette action de groupe il y a 4 ans. Cependant, pour elle, un point du jugement est particulièrement problématique. La période pendant laquelle la responsabilité du laboratoire est engagée, 2001-2006, sur les troubles neurodéveloppementaux. Or, pour l'association, ce risque était connu dès les années 1980 et le manque d'informations a persisté au-delà de 2006. Le laboratoire Sanofi, de son côté, assure avoir toujours été, je cite, « transparent ». Il a annoncé son intention de faire appel. Le jugement n'est donc pas définitif. Il faudra que la décision soit confirmée pour que l'action de groupe puisse effectivement s'ouvrir et qu'ainsi le sujet des réparations soit examiné.
On part au Kazakhstan où Internet et connexions mobiles sont toujours coupées en ce moment. L'état d'urgence a été décrété sur tout le territoire après les violentes manifestations qui secouent le pays. En cause au départ, la flambée des prix du carburant. La résidence présidentielle ainsi que la mairie de la capitale économique Almaty ont été incendiées. Le président Kassym Jomart Tokayev promet une réponse ferme. On l'écoute.
I will deliver new proposals on the political transformation of Kazakhstan soon. I will stand for sustainable reforms. I particularly would like to thank law enforcement agents and military personnel. They took the bullets of the militant groups and unfortunately suffered casualties.
Pour préciser les propos du président, pour l'heure, c'est 8 membres des forces de l'ordre qui sont décédés dans les violences. La Russie voisine vient d'annoncer l'envoi d'une aide militaire. Et Kassym Jomart Tokayev a également annoncé prendre la tête du Conseil de sécurité, ce qui signifie que l'ancien président, Nursultan Nazarbayev, 81 ans, n'est plus au pouvoir. Les explications de Rezis Janté.
Si ce 5 janvier 2022 pourrait bien entrer dans l'histoire du Kazakhstan, ce n'est pas seulement parce que le pays semble quasi hors de contrôle des autorités ce mercredi soir, mais c'est aussi peut-être qu'en cette folle journée, la page Nazarbayev s'est définitivement tournée. Dans l'après-midi, le président Kassym Jomart Tokayev annonçait à l'occasion d'une allocution solennelle qu'il dirigeait désormais seul le Conseil de sécurité. Or, le dit Conseil est depuis près de 3 ans le vrai centre du pouvoir au Kazakhstan. En effet, lorsqu'en mars 2019, Nursultan Nazarbayev a décidé d'abandonner le fauteuil de chef de l'État qu'il occupait depuis 1991. Il a en réalité gardé l'essentiel des attributs présidentiels en tant que chef du Conseil de sécurité. Ainsi, en va-t-il dans les régimes autoritaires où l'autocrate ne peut quasi jamais quitter le pouvoir en réalité. Ce mercredi après-midi, celui qui s'était fait officiellement nommer El-Bassi, chef de la nation, a peut-être définitivement abandonné les rênes du pays sous la pression de la rue qui depuis plusieurs jours crie Chalquette, vieil homme, va-t'en.
Un coup d'œil sur votre météo de ce jeudi. Soleil et 34 degrés à Perth, pluie et seulement 23 degrés à Adélaïde. Comptez 29 à Melbourne, 19 à Hobart. Il va pleuvoir à Canberra, 25 degrés. Pareil à Sydney et à Brisbane, 28 degrés. Nuageux, mais 36 degrés à Cairns, attention aux UV. Et enfin, pluie et 33 degrés à Darwin. Le rappel des principaux titres de l'actualité. L'Australie qui revoit la réglementation concernant les tests PCR et antigéniques. L'objectif est d'alléger la pression sur les laboratoires de dépistage. Emmanuel Macron qui met le feu aux poudres avec ses propos polémiques. « Je veux emmerder les non-vaccinés », dit le chef de l'État. Et le Kazakhstan en sang et en flammes. Des violentes manifestations ont causé la mort de 8 membres des forces de l'ordre. L'état d'urgence a été décrété.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur SBS French. Tout de suite, le journal des sports présenté par Jean-Noël Ducasse. Avec cette dernière information, bien sûr, Novak Djokovic appelé à quitter l'Australie dès son arrivée à l'aéroport de Melbourne. Tous les détails dans un instant.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord la nouvelle que Novak Djokovic ne jouera pas à l'Open d'Australie. Selon The Age, il n'a pas fourni les preuves appropriées pour entrer en Australie. Novak Djokovic, non vacciné contre le Covid-19, avait annoncé mardi avoir bénéficié d'une exemption médicale pour jouer le premier Grand Chelem de 2022. Sofiane Amazian, Radio France Internationale.
Novak Djokovic a échoué à fournir les preuves appropriées pour entrer sur le territoire australien, assure le ministre de la Santé Greg Hunt. Pour un problème de visa, le numéro 1 mondial devrait être contraint de quitter l'aéroport de Melbourne ce jeudi, un énième rebondissement depuis l'arrivée de Djokovic en Australie. Non vacciné, le numéro 1 mondial a bénéficié d'une dérogation médicale, alors que le pays oblige les joueurs à se vacciner pour participer au premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Un passe-droit qui fait jaser, car la Fédération internationale de tennis n'a pas voulu expliquer cette décision. Novak Djokovic devrait donc manquer l'Open d'Australie, une première depuis 2005. Le Serbe, déjà 9 fois vainqueur du tournoi, faisait figure d'immense favori à sa propre succession. Un 10e succès cette année aurait fait entrer Djokovic dans la légende, comme seul et unique joueur à avoir remporté 21 tournois du Grand Chelem. Le numéro 1 mondial devra attendre, mais peut compter sur le soutien du président de la Serbie, Aleksandar Vučić, qui ne mâche pas ses mots et accuse l'Australie de mauvais traitements à l'encontre du joueur. Les avocats de Novak Djokovic devraient faire appel de la décision.
Au retour sur la nouvelle, quand Novak Djokovic a reçu dans un premier temps une exemption médicale, c'était mardi. Grégory Pless, RFI.
L'annonce de sa participation au tournoi sur la base d'une exemption médicale à la vaccination contre le Covid-19 est très fraîchement accueillie en Australie. Les joueurs australiens James Duckworth et Alex de Minaur ont été parmi les premiers à réagir. Ils ont eu du mal à cacher leur surprise.
S'il remplit les critères, il devrait pouvoir venir.
C'est très politiquement correct de ta part. Pour ma part, je trouve ça très intéressant, je n'en dirai pas plus.
Pour tenter d'apaiser la colère qui monte, le président de Tennis Australia, Craig Tiley, a réaffirmé que le joueur serbe n'avait bénéficié d'aucun traitement de faveur.
Nous comprenons et sympathisons avec ceux qui sont fâchés par la venue de Novak en raison de ses déclarations ces deux dernières années sur la vaccination. Mais je veux vraiment insister sur le fait qu'il n'a pas reçu de traitement préférentiel, même si c'est l'impression que ça donne.
Sur place, les tabloïds locaux l'ont déjà affublé d'un surnom, Novax.
Le Français Pierre-Hugues Herbert, qui refuse de se faire vacciner, a renoncé à se rendre à Melbourne, tout comme l'Américain Tennis Sundgren. Et maintenant, retour sur le drame qui s'est déroulé jeudi matin de la semaine dernière à Jeddah, ville de départ du Dakar de 2022. L'explosion d'une des voitures, l'explosion qui a grièvement blessé le conducteur de 61 ans, Philippe Boutron. Le parquet français antiterroriste a annoncé mardi une enquête. Écoutez l'attaché de presse de Sodica Racing, Marie-France Estenave.
Ce n'est pas un accident, c'est un attentat avec une bombe. Les Saoudiens maintiennent leur position de dire que c'est un accident. Or, les personnes qui étaient dans la voiture avec Philippe Boutron, qui est là, c'est très grièvement blessé, m'ont confirmé et nous confirment tous les jours que c'est un attentat. Ils ont vu l'enveloppe de la bombe qui était calée dans le longeron de la voiture. Si les autres ne sont pas blessés, c'est parce que c'était une voiture extrêmement costaud et que ça n'a pas pu traverser complètement le châssis de la voiture qui était très épais. Ils ont voulu temporiser avant le départ pour que tout se passe dans l'ordre, dans le calme et sans panique. parce que je pense que si les concurrents l'avaient appris, peut-être que certains auraient plié bagage.
L'étape d'hier a été remportée, la quatrième, remportée par Nasser Al-Attiyah devant Sébastien Loeb et Carlos Sainz. Nasser Al-Attiyah reste leader avec son coéquipier Matt Baumel. Et côté moto, Johan Barreda, l'Espagnol, remporte la quatrième étape, sa deuxième victoire de spécial. Sam Sunderland reste leader du général. Et n'oubliez pas le Dakar et les meilleurs moments sur SBS Sports avec notre collègue Christophe. On passe au foot, la Coupe de France mardi. Lens a battu Lille au tir au but et va en huitième de finale. Mardi, le Paris Saint-Germain a éliminé Vannes 4-0 avec le triplé de Mbappé. On écoute Kylian Mbappé.
Je suis content. Toujours redémarré, on a été sérieux. Voilà, c'est pas un match facile à jouer pour nous. Mais on était là, nous on l'a joué et on a fait ce qu'il fallait et on est content de repartir avec la qualification. Ah, la santé, le bonheur et plein de titres avec le PSG et l'équipe nationale.
En Angleterre, la Ligue Cup hier, Chelsea s'est imposé contre Tottenham 2-0 et ce jeudi, Arsenal jouera contre Liverpool. En Espagne, la Coupe du Roi. Le FC Barcelone s'est imposé contre Linares 2-1 et le Real de Madrid a battu Alcoyano 3-1. Ce soir, Séville jouera contre Saragosse et l'Atlético de Madrid contre Rayo Majadahonda. L'AS Monaco, et on revient en France, a présenté son nouveau coach, un Belge, Philippe Clément, Sofiane Amazian, RFI.
Oui, l'ex-entraîneur de Bruges aura la lourde tâche de remplacer le Croate Niko Kovac, remercié il y a quelques jours. Connu pour son jeu offensif et pour sa confiance accordée aux très jeunes joueurs, Philippe Clément ne pouvait pas refuser une telle opportunité rare pour un entraîneur belge.
C'était très longtemps qu'un entraîneur belge a parti pour la France directement de la Belgique, plus que 30 années. C'était Raymond Goethals. Quand le train passe, tu dois le prendre. J'étais dans des projets vraiment intéressants les dernières années en Belgique. Et maintenant, je suis très content d'avoir l'honneur d'être ici dans un des 5 plus grands championnats du monde et de prouver qu'on peut aussi faire des choses comme nous avons fait en Belgique.
Prochain match de Monaco ce dimanche contre Nantes.
Et puis le Camerounais André Onana quitte l'Ajax d'Amsterdam et signe avec l'Inter de Milan. Les précisions de Sarah Loubacouche pour RFI.
Le gardien de 25 ans quittera l'Ajax Amsterdam en juin. Il y évolue depuis 2014, alors en provenance de l'équipe réserve du Barça. La saison prochaine, c'est finalement les cages de l'Inter Milan qu'il défendra, lui qui avait été ardemment courtisé par l'Olympique Lyonnais. André Onana, le talentueux portier du club néerlandais, pourtant longtemps éloigné des terrains. Il a été suspendu pour dopage en février dernier. Le Camerounais s'était alors défendu, parlant d'une erreur d'inattention. L'UEFA l'avait suspendu pour un an avant que le tribunal arbitral du sport ne réduise sa peine à 9 mois. Malgré ses qualités, ses performances passées de haut vol en Ligue des Champions avec une saison 2019 remarquable, son retour de suspension en novembre ne l'avait pas replacé sur le terrain, mais toujours sur le banc néerlandais. Il est donc temps de regagner les cages pour le Camerounais. À l'automne prochain, le gardien écrira une nouvelle page de son histoire en Italie, à Milan. Mais la prochaine étape de son aventure, elle se dessinera, elle, à domicile, à la CAN au Cameroun, où Onana devra prouver qu'il est bel et bien l'indiscutable gardien de la tanière.
On passe à la CAN de 2022 avec quelques nouvelles comme les jauges qui sont fixées. Explication de Sofiane Amazian pour RFI.
Deux jauges viennent d'être fixées et ce par la Confédération africaine de football. Une première à hauteur de 80% de la capacité d'un stade lors des matchs de l'équipe du Cameroun. La seconde plus basse de 60% pour les matchs de toutes les autres équipes. À noter que cette mesure vient s'ajouter à celle qui oblige les spectateurs à être vaccinés et à présenter un test négatif le jour de match.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler cuisine, pas n'importe laquelle, la cuisine qu'on peut faire en voyage, en camping, avec un matériel extrêmement limité. Et pour en parler avec nous, on a Gaël Tessier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Gaël, tu es cuisinier de formation, mais tu as décidé sur Instagram de montrer aux gens que c'est possible, en gros, de manger autre chose que des nouilles chinoises quand on est en road trip, par exemple.
Ouais, c'est exactement ça. Nous, on est en road trip, là, ça fait un mois qu'on est reparti. Et on cuisine beaucoup, tous les jours, on cuisine dans notre van avec juste un gas cooker, une casserole, un wok et une poêle, quoi.
Alors, je précise, hein, parce qu'il y a quand même la moitié du pays qui est confiné actuellement. Pour ta part, avec ta copine, vous êtes en Australie occidentale, vous vous dirigez vers le territoire du Nord. Il y a quand même des parties de l'Australie où ça reste possible de se déplacer comme vous le faites.
Ouais, carrément. Nous, on a la chance d'être au bon endroit en Australie en ce moment. Donc, le confinement, non, on n'y est pas et on a beaucoup de chance par rapport à ça. Ouais.
Ok. Alors, Gaël, je le disais, tu es cuisinier de formation, mais tu as commencé, tu as créé un compte Instagram où tu partages un petit peu tes recettes, des recettes qui globalement sont assez simples. Il n'y a pas besoin d'être un chef étoilé pour réussir à faire les plats que tu proposes. Et donc, la particularité, c'est qu'elles nécessitent très peu d'équipement. Comment t'es venue l'idée ?
Alors, on va revenir sur les nouilles chinoises, en fait. Donc, moi, c'est pas un truc que je connaissais. Et c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de backpackers durant le road trip. Et un jour, on a rencontré deux backpackers qui avaient posté un post sur Instagram en disant « Ouais, aujourd'hui, on va pas manger des nouilles chinoises. » c'est à partir de rencontres qu'on s'est dit « Tiens, pourquoi pas créer un compte et partager nos recettes qu'on fait en toute simplicité. Hein. » Encore une fois, on n'a pas beaucoup de matériel. Et à partir de ce compte, ça pourrait inspirer d'autres personnes qui pourraient reproduire, que ce soit un wrap végétarien, un petit poisson grillé sur un barbecue avec un petit accompagnement de légumes. Donc tout tourne autour de la pêche et des légumes. Des légumes qu'on achète et de la pêche qu'on pêche partout en Australie, que ce soit au bord de la mer, dans une petite rivière. Il y a une grosse partie pêche, mais on cuisine beaucoup de légumes. On achète très peu de viande et on vit surtout de ce qu'on pêche et de ce qu'on achète en légumes.
Ouais, alors effectivement, en tout cas, moi, les deux stories récentes que j'ai vues sur le compte, c'était effectivement la préparation d'un dal. Donc un plat d'origine, alors je suis pas sûr si c'est indien ou sri-lankais, mais enfin de cette partie du monde.
Ouais, plus indien, ouais. Après ça doit exister au Sri Lanka, ça m'étonnerait pas, mais c'est ça.
Et donc complètement vegan, effectivement, que des légumes. Et j'ai vu une autre recette, c'était du poulpe, me semble-t-il, du poulpe préparé avec des petits légumes, etc. Et ensuite le tout, les pâtes cuites dans le jus du poulpe, ça avait l'air vraiment très très bon ça.
Et c'était très bon, ouais. Donc, ça c'est l'exemple type. Par exemple, ouais, on a eu la chance de pêcher un poulpe. Et après, voilà, sur l'Instagram, j'explique comment on va le cuisiner. C'est-à-dire, par exemple, pour le poulpe, on l'a cuit au courbouillon, dans un courbouillon végétal. On l'a cuit pendant une heure et demie dans ce bouillon. Après, on l'a sorti du bouillon, on l'a taillé. On l'a fait revenir dans une casserole. On y a ajouté la garniture qu'on avait utilisée dans le bouillon végétal, par exemple. Et après, on rajoute notre bouillon qui est maintenant un bouillon de poisson, quoi, un bouillon à base de poulpe. Et on va cuire nos pâtes dedans et on termine avec un petit peu de fromage. Et j'avais mis, si je me souviens bien, des câpres et du jus de citron. Ouais. Et c'était très bon. Et voilà, ça donne des idées. Bon, tout le monde ne va pas pêcher un poulpe, mais ça peut donner des idées pour ceux qui en pêchent un jour et qui ne savent pas trop quoi en faire.
Alors, tous les deux, vous avez ce petit avantage. Effectivement, vous pêchez, donc vous pouvez un petit peu améliorer l'ordinaire. Mais moi, ce qui m'a plu dans ce compte, au-delà du fait que ce sont des recettes assez simples à faire, c'est que ça démontre aussi que c'est possible de manger bien, de manger équilibré, même en étant sur un budget serré.
Alors...
Et même en Australie.
Ouais, même en Australie. Après... J'avoue, de temps en temps, c'est compliqué à trouver des légumes en Australie. Mais c'est pas impossible, loin de là. Donc, nous, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est c'est on se rapproche des petits marchés de producteurs pour se fournir un légume. Comme ça, on peut avoir des légumes de très bonne qualité. Ce sera pas des légumes de supermarché ou de janvier à décembre, ils vont avoir exactement le même goût et très peu de vitamines. Donc, on se rapproche souvent des petits marchés aux alentours des petites villes ou des grosses villes. Après, c'est vrai, quand on est dans l'outback, loin de tout, c'est impossible d'aller voir il y a très peu de chances qu'on aille voir un petit producteur. Mais c'est largement possible en Australie de bien manger à petit prix, parce que voilà, les petits producteurs, il y a beaucoup de petits producteurs qui vendent à un prix très très raisonnable, en dessous du supermarché, et c'est 100 fois meilleur qu'au supermarché.
Bon, pour revenir à toi, Gaël, donc là, sur ce compte Instagram, c'est des recettes assez faciles qu'on peut faire à l'arrière de son, ouais. De son van, mais tu as une vraie formation de cuisinier à la base. Tu peux nous raconter un peu ton parcours ?
Ouais. Alors, moi, je suis cuisinier de formation. J'ai fait BEP et brevet professionnel, donc en 4 ans. Donc, j'ai fini par l'apprentissage à un brevet professionnel pendant 2 ans chez moi à Castres, à côté de Toulouse. Et à 19 ans, je suis parti juste après l'apprentissage. J'ai pas mal voyagé. J'ai passé 3 ans en Angleterre, dont 2 ans chez Pierre Gagnard. Après l'Angleterre, j'ai travaillé pendant un an en Suisse. Donc là aussi, j'ai été dans des restaurants étoilés. Et après ça, j'ai fait un an en Nouvelle-Zélande. Donc là, j'ai travaillé dans un restaurant gastronomique. Pareil, après, j'ai fait un road trip aussi, mais plus court, juste un mois. Parce que de toute façon, la Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus petit que l'Australie. Et ensuite, je suis revenu chez Pierre Gagnard à Moscou pendant quasiment un an. Et après cette expérience, j'ai fait quelques saisons entre la Côte d'Azur et les Alpes, les Trois-Vallées, Saint-Martin-Belleville, où là, j'ai eu mes premières positions de chef dans un hôtel 4 étoiles, dans une station de ski. Et ensuite, on est allé à Cognac, c'est là où j'ai rencontré mon ami, Alison. Et donc là-bas, j'ai fait l'ouverture d'un hôtel 5 étoiles en tant que sous-chef du restaurant gastronomique. Et ensuite, j'ai fini par faire une saison à l'hôtel Le Martinez à Cannes, donc hôtel 5 étoiles, donc une saison d'été. Et ensuite, on a décidé de venir en Australie.
Oui, j'imagine qu'avec un CV pareil, tu n'as pas eu trop de difficultés à trouver du travail ici ?
Non, je l'avais même trouvé avant de venir.
Ouais. Ok. Alors, pour revenir à ce compte Instagram, comment il s'appelle si on veut le suivre et voir vos aventures, mais aussi vos recettes ?
Ouais, alors, donc, le compte Instagram, c'est Les Petits Plats de Gaël. Donc, comme ça se prononce, Les Petits Plats de Gaël. Et donc là, on met toutes nos recettes. En ce moment, on cuisine beaucoup, donc on met une story par jour. C'est une story de recettes. Par exemple, aujourd'hui, on va mettre le taboulé que l'on a fait hier. Donc, taboulé tout simple de tomates, concombres, menthe, jus de citron, raisin, qui est facile à reproduire. On explique tout dessus, les pesées, le grammage, approximativement, bien sûr. Et c'est très facile à reproduire. Donc voilà.
Ok. Bon, merci beaucoup, Gaël. Bonne pérégrination et profitez-en bien, parce qu'encore une fois, de nombreux autres comme moi-même sommes coincés actuellement. Donc profitez bien de votre liberté.
Ouais. Merci beaucoup. Et ça me fait plaisir de faire cette petite interview. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et vous prendrez sans doute plein d'idées, même si vous êtes chez vous à la maison. Ça peut toujours servir.
C'est noté. Merci beaucoup.
Merci.
Le 6 septembre dernier, Jean-Paul Belmondo nous quittait. En ce début d'année 2022, on a voulu rediffuser l'interview de Michel Ricard, ancien directeur de l'Alliance française de Melbourne, suivi, vous allez l'entendre, des répliques les plus célèbres de Bébel.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Bébel, il y a un peu, Bébel, il a deux carrières. Et lui, il a voulu s'attacher à la fabrique Bébel. Comment Belmondo est devenu Bébel ? À travers une sélection de films qui alternent films commerciaux, comme il sait faire, comme il s'est particulièrement illustré dans les années 80. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon, ça a été son choix. Et des films, disons, plus cinéma d'auteur, parce que on oublie que Jean-Paul Belmondo, ça a été la figure de la Nouvelle Vague, et ça a été un des acteurs préférés, en tout cas de Jean-Luc Godard, qui lui incarnait ce mouvement.
Et ses débuts au cinéma remontent à la fin des années 50, d'après ce que je comprends. Oui. Il est arrivé comment au cinéma?
En fait, Belmondo venait d'un milieu assez
bourgeois. Il n'était pas cascadeur.
Non, il venait d'un milieu assez bourgeois quand même. Il avait un père qui était un sculpteur avec une vraie renommée. Et puis lui, c'était un peu le mauvais élève, le trublion. Il s'est pris de passion en fait assez jeune pour la boxe. Et puis il n'a pas vraiment fait carrière. D'ailleurs, il a ce physique de boxeur. Hein. Il a le nez cassé, on le voit. Il savait pas trop comment se réaliser, mais il était clair pour lui que jouer la comédie, c'était quelque chose qui lui plaisait. Alors, il est rentré au Conservatoire de Paris, qui était quand même très prestigieux dans les années 50, on les a complètement oubliés, mais avec des professeurs qui étaient eux-mêmes de grands comédiens de théâtre, de cinéma. Et Belmondo là, a été découragé et ne s'est pas découragé. C'est-à-dire que ses profs ne lui prédisaient aucun avenir, en disant qu'avec le physique qu'il avait, aucune fille voudrait l'embrasser sur grand écran. Et il s'est accroché. Et Belmondo, c'est un garçon de copains. Il aime les copains et il s'est fait des copains qu'on a appelé la petite bande du conservatoire, avec des gens comme Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, Claude Rich. C'est devenu une bande complètement inséparable, et d'ailleurs à la vie, à la mort. Donc Belmondo, il est au conservatoire, ses profs se moquent de lui, carrément, ses copains le soutiennent, il a des petites participations, des petits rôles qu'il décroche dans des films très très secondaires, ça on est à la fin des années 50, et puis il y a un critique de cinéma qui est en train de préparer son premier film, qu'il remarque, et ce critique de cinéma, c'est Jean-Luc Godard. Il trouve que son physique, parce que tout est physique chez Belmondo, est quelque chose de très frais dans le cinéma français. Et il lui confie le premier rôle de son premier film qui est À bout de souffle et qui va devenir un énorme succès, qui est le premier film de la Nouvelle Vague, une nouvelle façon de faire du cinéma qui fait appel à des jeunes, qui parlent des problèmes de société, qui se filment dans la rue, parce que c'est le contraire de l'académisme, qui avait pignon sur rue à cette époque. Et Belmondo incarne ce nouveau visage, cette jeunesse telle qu'elle existe en fait dans la vraie vie. Et c'est le départ. Et c'est un départ très fort parce que avec À bout de souffle, qu'on a présenté l'année dernière dans le premier classique, non seulement le succès public est là, mais en plus le film va faire le tour du monde et va fonder cette école de la Nouvelle Vague dont on parle encore aujourd'hui et particulièrement dans le monde anglo-saxon. Alors, avec cette Nouvelle Vague, avec Godard, avec qui il va quand même tourner trois films, il va devenir, il va incarner une nouvelle génération d'acteurs et va avoir même un écho outre-Atlantique, puisque dans les années 60, il fait la couverture de Life Magazine avec ce gros titre Jean-Paul Belmondo, le nouveau visage du cinéma. Alors comme beaucoup d'acteurs français et d'actrices, il va pas se laisser séduire par Hollywood, il va pas avoir envie de faire ce cinéma-là, qui est un cinéma très carré, très très professionnel, etc. Lui va c'est bien dans son tempérament et dans le tempérament de beaucoup d'acteurs français, il a envie de rencontres, il a envie de vivre des aventures à travers des films et pas forcément faire un métier.
Il a joué aussi aux côtés de grandes comédiennes comme Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Sophia Loren, Claudia Cardinale et Jean Seberg.
Jean Seberg, on l'a vu l'année dernière. Cette année, il va y avoir d'autres grandes actrices là dans ce cycle Bébel. Il y aura Emmanuelle Riva qui était vraiment incontournable dans les années 60. Ouais. On retrouvera aussi Annie Dupéret, dont on parle plus trop, mais qui en même temps a fait une belle carrière à la télévision et surtout récemment. On va retrouver Françoise d'Orléac, l'incroyable Françoise d'Orléac, sœur de Catherine Deneuve, qui était très très populaire dans les années 60 et qui est morte à 25 ans dans un accident de voiture, très tragiquement. Une carrière qui s'annonçait vraiment internationale. François Truffaut disait d'elle que c'était ce que le cinéma français avait de mieux à l'époque. Donc voilà, mais effectivement, vous citiez d'autres actrices.
Ben, il a tourné. Anna Karina,
bien sûr. Il a tourné dans tous les films de l'époque. Donc forcément, il a rencontré toutes les vedettes, toutes les plus belles femmes. Il a vécu d'ailleurs aussi avec de célèbres actrices. Ursula Andress, qu'il avait rencontrée sur le tournage de Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Laura Antonelli, avec qui il a vécu un certain moment, qui est une actrice italienne. Et puis, il a formé des duos mythiques avec Jacqueline Bisset, avec Raquel Welch, avec Claudia Cardinal, bien sûr. Et puis, Catherine Deneuve, La Sirène du Mississippi. François Truffaut, Romy Schneider, vous la citiez. Non, vous avez cité Jeanne Moreau. On a redécouvert tous les deux un film avec Romy Schneider qui est assez anecdotique.
Vers la fin des années 50.
Voilà, ouais. Mais Jeanne Moreau dans Moderato Cantabile, voilà. Et puis après, il s'est un peu enfermé dans un cinéma de garçon quand même, à partir des années 80, où les femmes étaient plus faire-valoir et le film se construisait autour de Bébel, etc. Mais Belmondo va finir par incarner un stéréotype qui va aussi finir par lasser. Voilà, et puis sa carrière va se mettre entre parenthèses à partir des années 90. Ouais.
Michel Richard, merci à vous.
Merci Jean-Noël.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Pas les cons, tout va bien. Si vous faites les cons, tout va mal. Si un aventurier, c'est un type qui n'est heureux que quand il nage dans les emmerdements, alors d'accord, je suis un aventurier. Monsieur Hinault, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. T'as compris ? Parce que toi, tu as souvent l'air étonné, ton défaut. Tu vois ?
Oui.
Bon. On va faire un petit test et te dire deux, trois choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es prêt ? Tu es bien concentré ?
Oui, bien.
Tu sais que ton père est... T'es avec le petit pompiste avant ?
Je vous accompagne. Faudrait tout de même qu'on signale à Minos que ça devient de plus en plus difficile de se dans la touche sexuelle.
Et on partage toujours la merde, jamais le pognon.
h 55 sur SBS French, l'heure du rappel des grands titres de l'actualité de ce jeudi 6 janvier 2022. L'Australie qui revoit la réglementation concernant les tests PCR et antigéniques. L'objectif est d'alléger la pression sur les laboratoires de dépistage, mais moins de tests avec plus de cas, l'équation semble compliquée. Emmanuel Macron met le feu aux poudres avec ses propos polémiques. « Je veux emmerder les non-vaccinés », dit le chef de l'État. Vague d'indignation générale, notamment auprès des parlementaires et des candidats déclarés à l'élection présidentielle. Le Kazakhstan en sang et en flammes, des violentes manifestations ont causé la mort de 8 membres des forces de l'ordre. L'état d'urgence a été décrété et les militaires russes viennent en renfort. Et enfin, retour à la maison probablement pour Novak Djokovic. Fraîchement arrivé à l'aéroport de Melbourne, le numéro 1 mondial de tennis s'est fait refouler du sol australien pour un problème de visa. Il y a donc peu de chances que le Serbe participe à l'Open. C'est la fin de cette édition française. Je suis Marianne Murat, j'ai été très heureuse de passer cette heure avec vous. Merci de votre fidélité. Votre prochain programme, c'est samedi, même fréquence, même heure, ce sera avec moi. Bonne journée.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.